Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Eva Piedel.
Bonjour à toutes et à tous. En ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, proclamée en juillet 1962, une fiction vient nous rappeler des aspects moins connus de l'histoire de ce pays et qui donne aussi un nouvel éclairage aux tragédies passées et même encore récentes, à savoir le sort de la communauté juive qui est restée sur place après-guerre. Un livre intitulé « Maison Atlas », signé de notre invité aujourd'hui. Bonjour Alice Kaplan.
Bonjour.
On connaissait l'écrivaine, universitaire, historienne américaine que vous êtes. On savait que vous étiez très attachée à la France, dont vous parlez parfaitement la langue. Merci beaucoup. Et à ces écrivains, avec en tête Albert Camus, dont vous êtes spécialiste, en témoigne votre essai récent « En quête de l'étranger ». Et l'on vous découvre donc auteur de fiction avec ce premier roman, traduit de l'américain par Patrick Hersan et paru dans une toute nouvelle maison d'édition que je salue, Le Bruit du Monde, installé à Marseille, où vous serez d'ailleurs à l'occasion du festival littéraire « Oh les beaux jours » dont vous êtes l'une des participantes. Au regard de votre œuvre, et dans une certaine mesure, est-ce que vous diriez que Maison Atlas s'inscrit naturellement dans la continuité de tous vos travaux précédents et de l'amour que vous portez à la fois à l'histoire, à la littérature et à l'Algérie, bien sûr, où je crois est né ce projet ?
C'est tout à fait dans la continuité. C'est un livre que je devais écrire. C'est-à-dire que, enfin, je peux dire que c'est la faute à Camus, en effet. Parce que c'est grâce à Camus que je suis allée en Algérie en 2012 pour la première fois pour suivre les pas de Camus lorsqu'il écrivait L'étranger. J'avais envie d'écrire non pas une biographie de Camus, mais une biographie du livre, de son livre, son premier grand roman, L'étranger, dont on m'avait toujours dit qu'il s'agissait d'un héros existentialiste, mais on ne m'avait jamais parlé, aucun de mes professeurs ne m'avait parlé du contexte de ce livre, du cadre de ce livre qui est Alger colonial. Donc j'avais cette grande curiosité qui était chez moi depuis des années. Et pendant des années, je ne pouvais pas en aller en Algérie à cause des années noires et de la violence. Alors, dès que j'ai pu, 2012, je suis allée. J'ai eu un coup de foudre incroyable pour le pays. Et j'ai commencé à apercevoir partout des signes de la vie juive passée, c'est-à-dire des étoiles de David, une synagogue devenue mosquée, qu'on appelle toujours la mosquée des Juifs au centre d'Alger.
Et qui est citée ici dans le roman, en effet.
Oui, la mosquée des Juifs et aussi quelques synagogues qui sont presque en ruine. La synagogue qui appartient à la famille fictive Atlas est en ruine à Alger. Alors, j'ai demandé à mon amie éditrice aux éditions Barzac, à Alger, qui ont édité le livre sur Camus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et elle m'a expliqué que la plupart des Juifs sont partis en 62, mais qu'il restait quand même une famille, une grande famille, qui assumait complètement son identité juive, tout en étant patriote, algérien, etc. Et je voulais rencontrer cette famille, évidemment. Et j'ai commencé une conversation avec cette famille que j'aime beaucoup, qui a duré 4 ou 5 ans. Et j'ai transformé, j'ai transposé. Je ne voulais pas écrire leur histoire, je voulais protéger l'identité de ces gens qui avaient connu de la violence, etc. Donc, voilà, les personnages sont nés de Maison Atlas.
Et donc, c'est ainsi que l'on ouvre ce roman qui se déroule en partie à Bordeaux, en partie dans le Minnesota et en partie à Alger. Entre les années 1990, cette décennie noire et aujourd'hui, mais remonte encore plus loin, et qui, à partir d'une histoire d'amour entre deux étudiants, une jeune américaine et un jeune algérien, Émilie et Daniel, un livre donc qui s'attache à raconter la place de cette communauté juive en Algérie Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce point de vue? Est-ce que vous avez un lien avec la judéité, Alice Kaplan?
Oui, je suis née dans une famille juive assez laïque. J'ai exagéré tout ça chez Émilie, cette jeune juive du Midwest qui ne connaît rien mais rien à son héritage et qui a toujours eu ça comme un détail pas très intéressant de son histoire personnelle. Et quand elle rencontre Daniel à Bordeaux, elle comprend que c'est quelqu'un qui s'accroche aux dernières traces de la judaïté, qui est vraiment attaché à sa judaïté. Et c'est un peu une expérience pour voir qu'est-ce qui se passe si vous mettez une juive ashkénaze laïque avec un juif berbère algérien, avec leurs deux contextes historiques, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes-là? C'est quoi cet amour?
Et en l'occurrence, ce n'est pas la religion d'ailleurs qui les réunit. C'est une histoire d'amour sans aucune place pour les confessions, même si ça va les rattraper un peu plus tard.
Oui, enfin, ce qui m'a intéressée chez Daniel dans le roman, c'est quelqu'un qui est très attaché à son identité juive, mais qui n'a plus de communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on s'identifie beaucoup à une communauté qui n'existe pas? Il représente la communauté juive inexistante. Et ça m'a fascinée.
Alors, précisément, parlons-en de cette communauté juive en Algérie, parce que c'est une histoire qui a été malmenée, et malmenée en particulier par les politiciens français, puisque tour à tour, ils n'ont eu de cesse de changer leur statut. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, Alice Kaplan, ce qui s'est passé?
C'est une belle question, je vous en remercie. C'est-à-dire, en 1970, le décret Crémieux, donne aux Juifs la citoyenneté française.
En 1870.
Donc, ils sont du jour au lendemain citoyens. Ce qui les sépare de leurs frères arabes, musulmans, dont ils partageaient une langue et une culture. Ils sont bien, ils deviennent de plus en plus européanisés, français, jusqu'au jour en 1940 où le statut anti-juif sous Vichy prive les Juifs d'Algérie de leur citoyenneté. Ils redeviennent des indigènes. Et dans la famille, dans mon histoire, cette privation est quelque chose de très, très traumatique, qu'ils n'oublient jamais. Et c'est à peu près pour ça qu'ils ont soutenu la révolution algérienne.
Oui, et c'est une histoire qui est incarnée ici par le grand-père de votre personnage, qui s'appelle Henri Atlas, qui donc à la fois est un homme politique élu et qui peut parler à l'Assemblée et qui du jour au lendemain n'a plus aucun droit. Donc on voit le choc que ça peut représenter, un choc qui s'est sans doute répercuté sur son fils Samy, qui va subir en effet terriblement les contre-coups de cette révolution et de cette guerre à suivre plus récemment. Et puis Daniel porte tout cet héritage.
Tout ce traumatisme, cette perte, cette inégalité. Et puis, il faut dire que dans mon travail avec la famille, qui est le modèle pour la famille Atlas, le plus beau jour, c'était le jour où ils m'ont amenée dans le bureau de leur grand-père. Parce que je n'avais pas compris pourquoi cette famille tenait tellement à l'Algérie. Quand je suis rentrée dans ce bureau, en bas de la Casbah, où ils ont tout laissé comme c'était en 1960, tous les papiers, toute la correspondance, j'ai pu lire les discours du grand-père à l'Assemblée algérienne, au Conseil général, au moment où il perdait sa citoyenneté. C'était remarquable. Donc j'ai décidé de mettre même des voix d'archives, des morceaux d'archives dans le texte en italique, pour que le lecteur puisse rentrer lui-même dans ce bureau, comme moi j'avais fait.
Et en effet, on rentre dans ce bureau, il y a une scène où Émilie accède à un bureau qui est resté intact depuis des années, et c'est grâce à elle qu'on lit ces archives.
Exactement, elle n'a pas beaucoup de temps, elle se dit, mais c'est toute l'histoire de la famille, je n'ai qu'une heure. Donc elle prend quelques coupures de presse, elle les met dans son sac, et après elle va les donner à sa fille, pour que sa fille comprenne.
On y arrive dans un instant, justement, au personnage de Becca. Juste une question, Alice Kaplan. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette communauté juive à Alger, en Algérie? Et est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à son égard?
Alors, il n'y a pas de communauté juive en Algérie. Ce qu'il y a, il y a le cimetière, qui est très très bien entretenu, où beaucoup de pieds noirs, beaucoup d'Algériens, de Français d'origine algérienne, reviennent maintenant à Alger pour visiter leurs ancêtres.
Mais ils sont tous partis.
Ils sont tous partis. Enfin, il peut y avoir peut-être moins de 40 personnes dans tout le pays, je ne sais pas.
Et est-ce que c'est
une vraie absence. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, m'a beaucoup émue au moment de la parution de mon livre en Algérie, parce qu'il est édité aussi là-bas.
Aux éditions Barzac.
C'était l'incroyable ouverture des gens à ce sujet, le désir de comprendre cette histoire et le sentiment que quelque chose manque pour eux. Il y a une diversité culturelle qu'ils ont perdue, dont ils sont très, très conscients. L'ai senti au moment du grand salon du livre à Alger.
Le Sila.
Oui.
Le récit est donc raconté de trois points de vue. Émilie, qu'on a citée, Daniel, bien entendu, et leur fille Becca, dont Daniel ignore l'existence, puisque avec ces événements terribles qui se passent en Algérie, qui ont commencé, donc je le rappelle, dans les années 1990, au moment même où il est amoureux d'Émilie à Bordeaux, il rentre en catastrophe dans sa famille. Hélas, ne peut pas empêcher l'assassinat de son père en 1995. Et là, il disparaît. Émilie tente de faire un voyage de la dernière chance. Elle le retrouve à Alger en 1995, mais sans succès. Leurs routes se croisent néanmoins dans une scène avec énormément de tensions.
Docteur Jivago.
Donc leurs routes se croisent, mais elle ne le sait pas. Pour vous, Alice Kaplan, Émilie ici, c'est une femme courageuse ou c'est une femme amoureuse?
Je pense que dans cette génération, entre Émilie et Becca, Becca est beaucoup plus audacieuse que sa maman. Émilie, elle est très, très amoureuse, peut-être un peu timide, mais elle ose tout. Elle ose, ce qui est incroyable, aller passer 5 jours à Alger en plein guerre civile. C'est l'amour peut-être qui la rend capable de ça.
Le chauffeur m'a fait signe à la sortie de la douane, dans un hall des arrivées où il y avait plus de gardes armés que de voyageurs. Ils étaient alignés dans leurs uniformes bleu nuit, mitraillettes au bras. Pas besoin de pancarte à mon nom, j'étais la seule étrangère. J'étais vraiment soulagée qu'il soit là. Tout en lui me semblait rassurant. La douceur de ses yeux noirs et sa moustache, son corps nerveux, sa manière de nous faire sortir du hall à toute allure. Dans une autre vie, il aurait pu être jockey ou boxeur poids-plume. Je lui ai demandé s'il avait beaucoup de clients. Il a répondu qu'il avait des visiteurs étrangers de temps à autre. Les touristes ne venaient plus, mais il y avait des journalistes, des ambassadeurs, des gens qui travaillaient pour des ONG. Dans l'immense parking, son taxi était garé dans la première rangée. C'était une voiture jaune, poussiéreuse. Dès qu'on s'est dirigé vers la sortie de l'aéroport, j'ai remarqué derrière nous un bataillon de 5 jeeps. On est suivi par qui? Par les forces de sécurité? On va se faire arrêter? Il a dit en riant. C'est votre escorte personnelle. Ils sont énervants, mais pas dangereux. Mais comment savent-ils que je suis ici? Il s'est remis à rigoler. Tout se sait ici. Mon taxi est cautionné par l'État. On est obligé de peindre nos voitures en jaune pour qu'ils puissent nous repérer dans la circulation. Et j'ai dû donner votre nom. Ils épitent toutes les arrivées. Si leur présence vous énerve, imaginez un peu les journalistes. Il les déteste. Avec une escorte pareille, impossible de faire un vrai reportage. Ils sont censés protéger les gens, mais en fait, ils les mettent en danger. C'est comme si on portait un grand panneau d'homme sandwich sur l'autoroute avec les mots « tirer sur la cible ». Je passe beaucoup de temps à aider les journalistes à les semer. Nous avons roulé jusqu'au barrage de police et Jamel est sorti pour ouvrir son coffre. J'étais persuadée que les flics m'observaient derrière leurs lunettes de soleil. Jamel est remonté dans la voiture. Il m'a dit que ce n'était rien. Il avait vu toute la guerre dans son rétroviseur. La route qui mène à la ville était déserte. D'un côté, je voyais des terrains vagues envahis par les mauvaises herbes. De l'autre, un front de mer dépeuplé. Jamel m'a dit que rien n'était comme avant à l'aéroport depuis le détournement de l'avion d'Air France. Le groupe islamique armé était censé détourner l'avion sur Paris et détruire la tour Eiffel. Mais quand ils ont fait escale à Marseille, la gendarmerie française les a tous abattus. Peu après, Daniel m'avait dit, je m'en souviens, c'est le début de la fin. En disant ça, il enfonçait ses ongles dans les bras de son fauteuil. Je me suis mise derrière lui, je me suis penchée par-dessus le dossier et j'ai posé mes bras autour de ses épaules. Je l'ai senti se détendre. Et même si tout allait bien chez ses parents, je pense qu'il avait déjà envisagé son départ. Après le détournement, Air France a annulé ses vols quotidiens vers l'Algérie. Seule Air Algérie proposait encore des Paris-Alger, et donc j'ai pris le même avion presque vite que Daniel suite au désastre. J'étais assise à l'avant à côté de Jamel. Il m'appelait Émilie et me tutoyait comme si on était amis. « Écoute Émilie, écoute Émilie !» Et il se lançait dans une autre histoire. Jamel avait vu la mort et la terreur de près, mais c'était un optimiste, un aventurier. Oui, il pouvait me conduire rue Bab Azoun à la Casbah, à la Villa Atlas, à El Bihar. Il avait grandi à El Bihar, et d'ailleurs, quelle coïncidence, il connaissait la famille Atlas depuis l'enfance. Tout le monde les connaissait. Il se souvenait du vieil Henri qui parrainait la mosquée et le marché. Ça doit faire au moins 10 ans qu'il est mort. Tout le quartier a été sonné par l'assassinat de son fils, Monsieur Samy. Je lui ai raconté mon histoire en omettant un détail essentiel. La vie continue, m'a dit Jamel. Le fils Atlas, on va le retrouver. Il y a sûrement une explication.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de l'écrivaine Alice Kaplan dont nous feuilletons le premier roman, même si elle est l'auteur déjà de nombreux livres, un premier roman paru sous le titre Maison Atlas dans une traduction de l'américain par Patrick Hersant aux éditions Le Bruit du Monde. Une fiction, on l'a dit, qui s'inscrit dans la grande histoire, celle de l'Algérie, qui célèbre en juillet prochain les 60 ans de son indépendance, et dans une histoire moins connue, celle de la communauté juive dans ce pays qui est principalement, essentiellement musulman. Une autre Algérie, donc, que l'on découvre à travers l'histoire de Daniel Atlas et d'Émilie, cette jeune américaine qu'il rencontre en France dans les années 1990. Bien sûr, Émilie, ce n'est pas vous, Alice Kaplan. Néanmoins, vous avez l'une et l'autre au moins un point commun, la ville de Bordeaux, où vous avez étudié une année, comme Émilie le fera 20 ans plus tard. Elle dit venir à la fac de droit et que c'est un prétexte pour venir en France.
C'est ça.
Et vous, Alice Kaplan ?
Lorsque j'étais étudiante à Bordeaux, à une époque différente de la sienne, on avait beaucoup d'amis maghrébins. On sortait beaucoup avec ces garçons-là. On traversait cette rue où il y avait beaucoup de restaurants de couscous et de brochettes, etc. Alors, toute cette scène, j'avais beaucoup de facilité à imaginer une histoire d'amour qui se déroule Bordeaux.
Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu étudier à Bordeaux ou plus généralement, quel est votre lien à la France et à la langue française?
Alors là, on pourrait parler pendant des heures.
Et
mais...
pourquoi pas?
J'étais de cette époque, vous savez, où quand j'étais toute petite, Jackie Kennedy était à la Maison Blanche et elle représentait vraiment tout le glamour de la France avec ses vêtements et sa façon de parler le français. Et quand j'étais en classe, j'ai choisi le nom Jacqueline comme mon nom français. On devait choisir un nom. J'étais complètement pris dans cette histoire francophile des États-Unis de cette époque.
Donc c'est aux États-Unis que vous apprenez le français?
Oui, et puis après en Suisse, en pension en Suisse, pendant un an à Versoix. Et c'était comme, vous savez, à cette époque-là, quand on a 13-14 ans, on peut tomber facilement amoureux de quelque chose, que ce soit les chevaux ou une langue. Pour moi, c'était la langue française. Elle ne m'a plus jamais quittée depuis l'âge de 15 ans. J'étais French major à Berkeley et on nous donnait la possibilité de passer un an en France. Et j'ai choisi Bordeaux et non pas Paris, parce que je me disais qu'à Paris, je parlerais anglais tout le temps. J'avais peut-être tort, mais...
On n'a jamais tort. Et donc, j'imagine que c'est en français que vous lisez Camus la première fois?
Oui, c'était le premier livre que j'ai pu lire en français. On commençait toujours la littérature par Camus aux États-Unis. Je l'ai lu dans une colonie de vacances dans l'état de Maine à l'âge de 15 ans.
Et coup de foudre?
Alors, pas exactement coup de foudre. C'est le livre par lequel j'ai appris la différence entre l'imparfait et le passé composé.
Ce qui n'est pas inutile non plus.
Oui, c'est très très commode. Et on essaie de nous expliquer que Camus avait choisi le passé composé parce que ce n'est pas une durée indéfinie. Alors si quelqu'un aime, il aime, schlack, comme ça. Et il y a peu d'imparfaits dans ce roman. Donc, on l'utilise à des fins pédagogiques plutôt.
Donc, L'étranger, ça n'a pas été forcément un premier coup de cœur. Mais néanmoins, après, comment est-ce qu'on devient Lise Kaplan, la spécialiste de Camus?
Mais vous savez, chemin faisant, j'ai beaucoup agrandi ma connaissance de Camus. Quand j'étais à l'université, on nous a enseigné Camus un peu dans une sorte de trinité existentialiste avec Beauvoir et Sartre. Après, quand j'ai été jeune prof, je me suis rendu compte que l'Algérie manquait à mon éducation autour de Camus. Je me suis mise à bien étudier l'Algérie. Et voilà, j'ai un peu évolué avec mon étude de Camus.
Donc, grâce à Camus, vous découvrez l'Algérie d'abord sur le papier et puis ensuite dans les faits. Ici, vous lui rendez hommage, vous le citez, de même que vous citez également le quartier Bellecour, où il est né.
Oui, alors Becca ne s'intéresse pas du tout à Camus. Je me suis amusée parce que le taxieur, on dit taxieur en Algérie.
Oui, ça m'a frappé ce mot.
Oui, le chauffeur de taxi qui l'amène à Bellecour, oui. Il se dit, bon, c'est sûr que cette petite, elle va adorer voir la maison d'enfance de Camus. Et non. Mais non, elle a autre chose à l'esprit, son papa.
Ce qui est très important. Vous êtes allée là-bas, à Lise Kaplan?
Oui, souvent. Chaque fois que je suis en Algérie, je vais à Bellecour, je passe par la maison d'enfance de Camus, et je vais aussi au cimetière européen rendre hommage à la mère de Camus qui est là.
Alors, la question des origines dans Maison Atlas, évidemment, elle est très importante. La transmission familiale aussi, c'est un thème qui vous tient à cœur, Alice Kaplan. Vous, dont les ascendants viennent de Lituanie, n'est-ce pas? D'ailleurs, est-ce que dans cet incipit où vous racontez la généalogie imaginaire des Segal, la famille d'Émilie, est inspirée de faits autobiographiques?
Absolument. J'ai transposé un peu, mais par exemple, cette arrière-grand-mère qui se suicide à l'hôpital.
Après la traversée de l'océan Atlantique.
C'est ma famille. C'est la grand-mère de ma mère. Oui.
Quelle histoire.
Et cette histoire nous a fascinés tous dans la famille. En fait, avec mon frère, on aimerait bien aller dans les archives pour essayer de voir ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose qui a été compté mais on ne sait pas trop.
Mais est-ce que comme Beka, qui est en quête de son père et va en Algérie, vous, Alice Kaplan, vous avez eu envie d'aller sur les traces des parents de vos parents ?
Alors, c'est très intéressant. Je me pose la question avec mon frère et ma sœur. Pourquoi on a si peu de curiosité ? Et je pense que c'est lié au traumatisme et à la génocide de ces gens en Lituanie, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Einsatzgruppen, le fait qu'il n'y a plus rien, plus rien. Donc,
vous n'êtes jamais allé en Lituanie ?
Jamais. Je pourrais, mais il y a peu de choses à voir. Et je pense que nos parents ont voulu, nos grands-parents ont voulu tourner la page.
En tout cas, c'est un voyage vers le passé qu'on peut faire aussi par les livres et par la fiction. C'est ce que vous faites ici, Alice Kaplan. D'ailleurs, vous qui avez enseigné la littérature et la langue française à Yale, qui avez partagé avec vos étudiants votre amour pour Camus, on l'a dit bien sûr, mais Modiano ou encore Roger Grenier, que nous avons eu la chance de recevoir ici quelque temps avant sa disparition. Est-ce que maintenant que vous êtes à votre tour romancière, votre regard sur la fiction a été un peu modifié ?
Je pense qu'on ne peut pas enseigner la littérature sans vouloir essayer d'en faire. C'est impossible. Et je rêvais toujours d'essayer d'écrire un roman. Et Roger Grenier aussi était un grand modèle pour moi. Je le voyais en train de créer des romans et ça m'a fascinée. Et j'ai traduit 4 ou 5 de ses livres. Et quand on traduit aussi, on est très très proche à l'acte d'écriture. Donc tout ça m'a aidée énormément.
Roger Grenier, qui était autant éditeur qu'écrivain et qui a côtoyé les plus grands du XXe siècle,
tout le monde.
Aux éditions.
J'ai eu une deuxième éducation auprès de lui, c'est vrai. Parce qu'à mon époque, mes professeurs étaient très théoriciens. Et donc avec Roger, j'ai pu avoir un accès à la pratique.
Roger Grenier, donc je finis ma phrase, qui travaillait aux éditions Gallimard. Donc ici, Alice Kaplan, c'est un rêve accompli ?
Le rêve n'est jamais accompli en littérature, n'est-ce pas ? On est toujours devant son prochain livre.
Mais néanmoins...
Mais quand même, il y a quand même une énorme satisfaction. Je pense que, ouvrir cette question de l'identité juive en Algérie, ça veut dire beaucoup pour moi.
Et passer à la fiction aussi.
J'ai écrit la plupart de ce livre pendant la pandémie, dans la plus grande solitude et aussi dans la maladie. Et je peux dire que ces personnages sont devenus mes amis.
Et puis, vous avez découvert cette fibre romanesque en vous, peut-être, qui ne demandait qu'à se réveiller ?
Peut-être bien.
Merci beaucoup, Alice Kaplan.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle
Catherine.
Le titre de ce très beau roman, Maison Atlas, traduit donc de l'américain par Patrick Hersant, et publié dans cette toute nouvelle et belle maison d'édition, Le Bruit du Monde.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Eva Piedel.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.